RMC.
Ce qui est dommage, c'est que c'est plus moins que plus la première situation au bout de deux minutes pour nous. Mais
le Super Football Show.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus. D'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Moi, je suis pour le plus avec le plus. Mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Nicolas Villas.
Et François Manardeau et Ali Benabia.
Nicolas
on peut, bien entendu, bien prononcer. L'articulation, 27e journée de Ligue 1. Les résultats aujourd'hui, 3-3 entre Monaco et Toulouse. Match qui se jouait d'ailleurs à Toulouse. 2-0 pour Dijon face à Caen. La victoire d'Angers, 2-1 à Lille. 2-2 entre Guingamp et Metz. Rennes s'est imposé 2-0 face à 3. Nous étions en direct il y a quelques instants avec Sanine. Persic, messieurs. On dit Persic. Et Nantes s'est incliné à domicile 1-0 face à Amiens. On va évoquer le premier match de ce samedi, le 3-3 entre Toulouse et Monaco. Doublé de Ronny Lopez. Jovetic a marqué pour l'ASM également. Sangaré, Delors sur Péno et Salogo ont marqué pour le TFC. Allez. Pourquoi tu te marres?
Mais parce que t'es bloqué avec le 3-3. Non, le 3 et Toulouse.
En fait. 3-3 entre Toulouse et. Ouais, parce qu'en fait, il faut dire 3-3 entre Toulouse. Tu vois, c'est relou. Il y a trop de.
Non, le problème, c'est que tu mets entre.
Je suis théophobe. Voilà.
C'est ça, tu mets entre. C'est ça qui t'aide pas.
Alors 3-3.
Entre Toulouse.
Entre Monaco et Toulouse.
Non, c'est le entre.
Il gagne du temps parce qu'il a rien à en dire.
Ouais, t'as quoi à dire, toi, sur le match, ouais.
Que Monaco s'est planté dans le sens que quand t'es à 3-1. Pour un petit peu assommer les Marseillais, pour garder cette deuxième place qui est très importante pour nos amis monégasques, tu vas pas te plaindre après l'arbitre. C'est vrai que François disait que le penalty sur Glick, que Glick, le penalty qu'il fait, ça aurait pu ne pas être sifflé. Mais quand tu es à 3-1, je suis désolé, et que tu es un club comme Monaco, tu dois faire en sorte, au moins, de rapporter les 3 points.
François.
Je pense que c'est pas forcément la seule défense monégasque qu'il faut blâmer, mais l'organisation défensive, en tout cas à partir du milieu de terrain monégasque, bon, c'est vrai que vu ce qu'ils ont réalisé comme transfert cet été, Moutinho a regagné véritablement sa place de titulaire. Mais quand il s'agit pour ce milieu de monégasque de défendre, t'as un peu le seul Moutinho. Fabinho, merci.
Tu vois, lapsus.
Qui peut
tu l'adores, toi aussi.
Non, c'est pas un lapsus. Qui peut tirer son épingle du jeu.
Et puis,
ouais, il aurait peut-être pu apporter
quelque chose. Il fait du bien à Bordeaux.
Quelque chose dans l'équilibre défensif de ce milieu monégasque. Et puis, Tillmans, qui est pas encore au niveau auquel on l'attendait, faut le reconnaître. Après, moi, je trouve que Blick et Jemerson font pas des saisons dégueulasses.
Non.
Sidibé, Radji qui fait ce qu'il peut faire et ce qu'il sait faire. Non, mais je te parle vraiment de l'animation défensive. Après, à 3-1, bon, le pénalty, il n'est pas sévère, en fait. Il n'y est pas, le pénalty. Hein, c'est un histoire qui vous le dit. Sinon, il faut siffler pénalty à tous les matchs parce qu'il ne charge même pas à Glick, l'attaquant toulousain. Il y a un ciseau de la part du Toulousain et lui, il va dans le dos de l'attaquant toulousain. Il y va avec l'épaule, il ne le charge pas. Il n'y a pas pénalty.
Est-ce que c'est pas le but?
Sinon, on ne peut plus défendre.
Attention, parle bien devant ton micro, Alice.
Est-ce que c'est pas le but qui refuse pour Sanogo de la tête, qui fait qu'après, automatiquement, il siffle le pénalty.
Ouais, mais la compensation, on l'a dit mille fois, ce n'est pas de l'arbitrage.
Alors, vous savez, et pourtant, ça fait partie de l'arbitrage.
Les Monégasques étaient colères, hein, vraiment vénères à l'issue du match. Je vous propose d'écouter Andrea Radji, d'ailleurs, à l'issue de la rencontre. Il a pesté contre l'arbitrage, tout comme son entraîneur, Leonardo Jardim, mais il était vraiment très, très énervé, l'Italien.
Nous, on se trompe sur le terrain, c'est pour tromper même l'arbitre. Mais quand nous, il faut donner des explications à une commission disciplinaire, nous, quand on se trompe. Et je veux que quelqu'un m'explique comment il a fait donner cette pénalty. Parce que c'est incroyable. J'ai revu 10 fois dans les replays. C'est un pénalty, franchement, c'est une invention de l'arbitre. Non, mais bien sûr, il a pris la confiance. Après, sur le premier but et le troisième but, c'est nous qu'on a fait des erreurs. Ça, c'est clair. Et on a cassé même 3 buts aujourd'hui, c'est pas bien. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est le foot. Après, on regarde avant, on a beaucoup de matchs encore et l'objectif ça reste le même. Aujourd'hui c'était un match clé, si on gagne ici aujourd'hui et après Marseille perd à Paris, on prend un petit avantage aussi sur Marseille, mais c'est pas passé comme ça.
Et c'est important ce que dit Radji. Alors il y a certes la colère vis-à-vis de l'arbitrage, mais il le dit, c'est vrai que c'est un match clé. Hein. Ils ont plus que 2 points d'avance sur Marseille. Hein.
Non, c'est pas ça, surtout que là, Marseille, ils vont se dire qu'en faisant un nul, on fait la très bonne affaire.
Oui, mais bien sûr qu'ils vont se faire Marseille. Mais en fait, dans la tête de tous les adversaires, enfin tous les poursuivants, oui, Lyon et Monaco, ceux qui se tiennent comme ça derrière Paris, à 3-1, tu te dis, ben, on est en train, voilà, de reprendre l'avantage dans cette course à 3 derrière le Paris Saint-Germain, et là, il se plante lamentablement. Et Radji, là-dessus, il faut lui reconnaître cette honnêteté de dire, ok, l'arbitrage, il s'est cassé la gueule sur le penalty, il a pas été bon,
ouais,
pardon.
Mais les deux autres sont
mais
pour
nous, en revanche, on n'a pas été bon défensivement. C'est bien aussi de, voilà, de mettre le curseur à la bonne place. Facile. Reconnaître. Sinon, c'est trop facile de charger les arbitres à chaque fois.
90, comme 93 minutes.
Surtout dans cette période de l'année.
Souvent, on entend la même
erreur. Sur la scène européenne.
On entend la même erreur, souvent, oui, mais on a pris le but à la fin du match.
Et alors, bah tu l'as pris, hein, le but.
C'est ce que je dis souvent. C'est les mêmes erreurs qu'on dit. Oui, mais à la 88e, on gagnait.
Le prochain match de Monaco, c'est un Benarbico, puisque c'est face à Bordeaux. Mmh. Tout ça rime d'ailleurs.
Monaco-Bordeaux?
Oui, ce sera pas mal ça aussi. Hein. Ce sera un match intéressant.
Là encore, ça dépendra de.
Ils ont un gros calendrier Bordeaux aussi. Hein. Ah, on en avait parlé, mais.
Mais peut-être ça les intéresse en ce moment d'avoir des grosses équipes.
Bah, va savoir. Bordeaux. En tout cas, Marseille, ça leur a pas réussi.
On va voir déjà le. Parce que on parlait du derby OL Saint-Etienne, mais déjà, commencer par un Bordeaux-Nice, très excitant.
Alors, on vous le disait tout à l'heure, hein, ce match nul avait un goût de défaite pour les Monégasques. C'est ce qu'a déclaré notamment Leonardo Jardim. En revanche, côté Toulousain, bah, ce match nul a un goût de victoire. Andy Delors, il avait plus marqué depuis le mois de novembre et il est heureux, le Toulousain.
Je pense que c'est une victoire. C'est vrai que là on a des matchs qui vont être compliqués. Ça fait un moment qu'il y avait un match à mi important où on n'a pas réussi à gagner. Mais voilà, ces matchs-là, même quand tu prends un point, c'est bien parce que c'est vrai que Monaco ils sont quand même au-dessus avec Paris et le reste. Et voilà, quand on fait des matchs comme ça, qu'on réalise des matchs comme ça, ou même contre Paris où on arrive à rivaliser, ben voilà, c'est bien pour la suite et surtout pour nous, quoi.
C'est lui qui a transformé le fameux pénalty hein, obtenu par les Toulousains.
C'est un tic ou il devait prendre le bus?
Pourquoi?
Je sais pas, on aurait dit qu'il voulait regarder sur le côté.
Il a gardé son sang-froid par rapport à Subasic, qui, le gardien croate, qui a quand même beaucoup joué l'intox.
Alors que Delors a du caractère quand même. Hein.
Ouais, mais je me suis dit, il était trop de caractère, je me suis dit, en train de le faire sortir de son tir.
Mais il le tire bien en plus.
Et il a très très bien tiré au final.
On va accueillir Nabil, il est supporter du TFC et il nous a appelé au 32-16 et il est en direct dans l'after. Bonsoir Nabil.
Bonsoir.
Salut Nabil.
Alors Nabil, t'es comment ce soir? Est-ce que t'es heureux après ce match nul de Toulouse face à Monaco 3-3?
Oui, moi je suis heureux par rapport à la physionomie du match et par rapport au fait qu'on ait enfin un peu vibré au stadium. Parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vibré au stadium, hein. Je me rappelle plus la dernière fois où on avait vibré au stadium. Je pense que c'était
t'étais la pire. Au coup d'envoi de cette journée, t'étais la pire attaque de Ligue 1 domicile avec Nantes et Rennes.
Eh bien justement, je vais y venir là-dessus. Voilà, donc non, en fait, si j'ai appelé ce soir, c'était surtout pour féliciter un peu ce nouveau coach qu'on a et qui a su prendre des décisions. Voilà. Et depuis un
donne-nous moment, les décisions, Nabil, qu'il a pu prendre.
Les décisions, c'est simple. Elles se passent au milieu de terrain. Je veux dire que depuis assez longtemps à Toulouse, mais depuis l'époque de Trérot, on avait plus ce milieu de terrain. Donc, on avait plus ce milieu de terrain créatif, en fait, qui pouvait lancer des attaquants comme Andy Delors ou comme aujourd'hui il y avait pas Gradel.
Sanogo.
Avec Gradel.
Il y avait Sangaré, il y avait Sanogo.
Donc, surtout Sanogo.
Ouais. Et du coup. Je voulais revenir un peu sur les choix qu'il a fait, parce que quand on regarde un peu ce monsieur Devel, en fait, il a fait des choix forts, parce qu'on regarde sur le banc, on a des gars comme Julien, qui était tout à fait apte de jouer aujourd'hui, qui a pas joué, et c'est surtout sur le remplacement, en fait, d'Imboula. Parce qu'en fait, je crois que la clé de la réussite de cette équipe aujourd'hui, en fait, de ce résultat-là, c'est le repositionnement tactique qu'il a pu mettre en œuvre. Parce qu'en fait, on avait que des milieux de terrain défensifs. On avait Imboula qui était défensif, on avait Cahuzac qui était défensif, on avait Blaine, parce qu'on a oublié, mais il est rentré, il fait un travail monstre. Mais voilà, mais aucun milieu de terrain créatif. Donc du coup, c'est certes, on a essayé de s'appuyer sur une assise défensive, mais ça marchait pas, comme tu disais, on prenait que des buts en pagaille. Alors on a marqué, mais on en prenait beaucoup trop. Alors aujourd'hui, on en a pris, certes, mais on en a mis. Et si on regarde bien, depuis décembre, enfin depuis le limogeage de Duprat, eh bien on prend pas beaucoup de buts. On prend pas beaucoup de buts.
Dehors de ce
sens. Certes, on n'a pas joué des cadors, hormis Paris, mais on on n'a pas pris beaucoup de buts.
Et d'ailleurs,
je pense que la réussite vient de là.
Et Nabil, Toulouse quand même, enfin, est 16e ce soir. Ça, c'est seulement un point d'avance hein, sur Lille qui est avant-dernier. Et le prochain match, c'est face à Metz. Hein. Metz qui a donné beaucoup de soucis ce soir également à son adversaire, Guingamp en l'occurrence.
Oui, mais on va à Metz et puis on reçoit deux fois derrière. On reçoit Marseille et Strasbourg. Marseille va être en plein Bilbao et la compagnie. Les gars, voilà, on n'a pas à se plaindre. Après, il faut savoir que cette année, on va vibrer. On va vibrer en haut, on va vibrer au milieu et on va vibrer en bas. Et je pense que ça va se jouer peut-être à la différence de but, aussi bien en haut qu'en bas qu'au milieu. Cette année, ça va être un peu ça, hein, je pense. On va vraiment vibrer. Mais moi, je voulais vraiment revenir là-dessus. C'est ce repositionnement tactique. Il nous met un Silla quasiment milieu côté, mais à vocation offensive. Alors que c'est un joueur de devoir. C'est un gars depuis qu'il joue à Toulouse. Ça fait 7-8 ans qu'il joue à Toulouse. C'est un pur défenseur. C'est un gars qui joue plein de défense. Voilà. Et tout ce repositionnement tactique me fait dire qu'on risque de voir pas mal de beaux jours, je pense.
Est-ce que vous êtes optimiste, vous aussi, messieurs, comme Nabil ?
Moi, ce qui me faisait drôle, c'est qu'en début de saison, on partait pour que Toulouse, avec un petit peu les nouveaux arrivants, fasse 10 fois mieux, quoi. Et surtout, et offensivement, l'année dernière, c'était bien, puisqu'il y avait Telejo, il y avait Braithwaite, il y avait
Jean.
Et de quoi. Et d'un coup, cette année, c'est tout le contraire. La preuve, c'est que sur le banc, aujourd'hui, tu avais Delors, tu avais Jean, et tu avais Sanogo, qui n'était pas prévu. Durmaz qui était très bon et qu'on ne voit pas.
Aussi,
et c'était incompréhensible, c'est-à-dire que l'assise défensive était la force avec une bonne attaque. Du coup, l'assise défensive a pris beaucoup du but depuis le début de la saison et se perd. Et offensivement, alors qu'on était bien, on a fait. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements, en fait, pas pour le bien, mais ça a été surtout négatif pour cette équipe de Toulouse.
Non, mais Michael Debet, vous me l'expliquez.
Ali, mais parce que des joueurs comme Imbula, je pense que les consignes de ce joueur-là étaient à vocation défensive. C'est pour ça qu'en fait, c'est un garçon qui, en fait, à 30 mètres du but adverse, on lui disait « tu stoppes ta course » et du coup, tu laisses Gradel, tu laisses des Delors en début de saison se débrouiller. Et du coup, ça pouvait pas marcher parce qu'on se retrouvait à deux, avec trois grands maximum avec un Corentin Jean quand il était bien en forme, mais c'était sans plus. Et on ne peut pas marquer, c'est pas possible.
En tout cas, Nabil, de nous avoir appelé.
Excusez-moi, attendez. Excusez-moi, parce que là,
Vas-y, Nabil.
Alors, je fais une dédicace à ma femme qui est au lit, sûrement.
Comment elle s'appelle ?
Je lui fais un gros bisou.
Tu es au lit ?
Elle s'appelle
Oli,
Katia.
Mais au lit,
ouais. Ouais. Elle est au lit. Ah oui, bien sûr, je suis pas très loin, en tout cas.
Je prends pas pour un
je voulais faire une dédicace à mon beau-frère qui est.
Comment il s'appelle ? Qui est au lit aussi ?
Il s'appelle. Non, lui, je sais pas s'il est au lit. À mon avis, il doit être au restaurant avec sa femme. Une grosse dédicace.
C'est
je fais une dédicace à sa femme. Je fais une dédicace aussi à mon professeur, puisque je travaille dans un collège. Il s'appelle Alain. Je lui fais une grosse dédicace.
C'est à sa femme aussi.
Et
trois, ça suffit. Après, il va falloir que tu raques.
Voilà. C'est bon. Je te remercie beaucoup et bonne soirée, messieurs.
Ciao, Nabil.
Salut, Nabil. Bonne soirée à toi. Belle saison à toi, Nabil. Merci.
Ciao, tout le monde.
Salut, ciao, bisous, Nabil. Bonne soirée. Oh, il est bon, le Nabil, quand même. Messieurs, on est à J-1 du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille et le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Quelques petites informations sur le choc d'abord entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Alors vous savez que Neymar était malade hier, on le disait. Il s'était pas entraîné hier. Malade était Neymar. Bien là demain. Il a été convoqué par Unai Emery. Berchiche est forfait, tout comme Verratti. Verratti n'a pas été convoqué pour le match de demain. 19 joueurs convoqués par Rudy Garcia. Il y a deux absents de taille, à savoir Mandanda parce qu'il est très grand et Mitroglou également.
Est-ce qu'on va avoir Diarra contre Marseille ou pas ?
Ah bah, en tout cas, il est convoqué.
Il n'y a pas Verratti ?
Oui, bah, il est convoqué.
Mais ce que je veux dire, ça serait drôle.
Ouais.
Pourquoi ?
Bah, de voir Diarra titulaire face à l'OM.
Ah, c'est à chaque fois que tu vois un joueur.
Jérôme Thomas,
il n'a pratiquement pas joué.
La rédac RMC Sport a préparé la compo probable. Et bah justement, une interrogation, c'est pas au poste de sentinelle, si ce sera Lass ou Thiago Motta.
Donc ça pue le Thiago Motta ?
Il peut mettre Thiago Motta et la Sanadira à la place de Lo Celso.
Hein. Pourquoi ça pue ?
Non. Ah si, largement.
Non.
Pourquoi
il ne jouera pas avec les deux ?
Avec qui ?
Il ne jouera pas avec Motta et Diarra en même temps.
Pourquoi ?
Moi, j'ai pas. Parce que pour lui, parce que pour lui, cette place devant la défense, c'est ou Mota ou Diarra.
Alors tu vois, il continue peut-être à se mettre les doigts dans l'œil, Unai Emery, parce que là, Sana Diarra, avec les cannes, hein, avec des bonnes cannes, il peut largement jouer 8. Hein.
Il n'a pas les cannes.
Faut voir. Faut qu'il enchaîne. Moi, je suis pas au camp des loges, hein, voir les entraînements, mais c'est théoriquement,
c'est les matchs. Hein. François, tu peux être très bon.
Pour décider quand tu es entraîneur.
Ah oui, je sais. Non, mais les rythmes. Dans la tête d'Emery, François, c'est ou Mota ou Diarra.
Je sais pas. Moi, je suis pas dans la tête d'Emery, mais à mon sens, là, il peut jouer avec Mota.
Qui est meilleur
entre Lo Celso et la Sana Diarra? En forme. La Sana Diarra.
La Sana Diarra, tu nous écoutes.
Entre la Sana Diarra,
est-ce que tu nous écoutes
en forme?
Bien sûr, oui, que je vous écoute.
Ah, ça va alors.
Bah, attends,
on va voir entre Benfica et Porto alors.
Pff, là, je vais te dire, Gervais,
c'est Braga.
Non, Gervais, c'est moi-même. C'est la D2, c'est encore
très bon.
Tiens, je vous pose une question. D'ailleurs, on va faire un petit teasing. C'est la question qu'on vous posera également. Ce sera l'un des thèmes dans le cœur du COP en avant-match du PSG Marseille. Ce match, il est plus important pour qui, vous pensez? Pour les Marseillais ou les Parisiens? Est-ce qu'il est plus important pour les Marseillais?
Je pense pour les deux.
Les deux, mon
capitaine. Non, il faut choisir, les mecs.
Parce que Paris, en vision contre le Real, c'est bien qu'ils aient ces deux gros matchs. C'est une très bonne préparation pour jouer le Real. Qui plus est, ces deux matchs se déroulent au parc et non pas à l'extérieur, ce qui va se passer contre le Real. Et pour Marseille, ils ont l'Europa League, mais c'est leur Ligue des Champions. Hein. Et c'est une bonne chose pour Marseille de jouer maintenant, dans le sens où le match aller a t'as eu un petit peu de l'espoir pour les supporters marseillais, cette équipe marseillaise qui peuvent rivaliser avec le PSG sur quelques matchs. Il faudrait qu'ils rejouent de la même façon.
D'accord, mais là, en l'occurrence, même très froidement statistiquement, avec, surtout après le match nul de Monaco d'aujourd'hui. Non, mais au-delà de ça, si Marseille gagne, il passe devant Monaco.
Ouais, bah, voilà.
Donc c'est plus important pour Marseille.
Non, mais c'est un match important pour les deux, oui. C'est un choix de dire que c'est un match important pour les deux. Après, dans les perspectives des Coupes d'Europe, pour les deux, c'est très très bien de s'affronter parce que ça te fait un match de compétition de très haut niveau. Je suis curieux de voir comment cet Olympique de Marseille, par rapport au match au Vélodrome où ils avaient vraiment tiré leur marron du feu, ouais, ils avaient été à deux doigts de les battre, va peut-être les perturber, en tout cas les gêner. Et puis, est-ce que ce Paris Saint-Germain-là, même sur la scène française, quand ils ont affaire à des adversaires tels que Lyon l'a montré cette saison, des adversaires qui peuvent les bousculer, surtout dans la dimension physique, comment est-ce qu'ils réagissent? Je ne sais pas s'ils peuvent se permettre de jouer à la baballe comme ils l'ont fait souvent avec des sparring partners au sein de la Ligue 1. Ce n'en est pas un demain au Parc des Princes. Tant mieux. Tant mieux pour le foot français et tant mieux pour les deux clubs.
Non, et puis tant mieux surtout pour la confrontation face au Real.
Voilà, dans la perspective européenne, nous sommes d'accord, monsieur Bézard.
C'est marrant, moi j'aurais pas dit comme vous. Je pensais que vraiment vous alliez dire le match est plus important pour les Marseillais.
Mais
tu rigoles, d'ailleurs, appelez-nous au 32-16, les supporters de l'OM pour le Paris Saint-Germain. Appelez-nous.
Non, tu parles comptable pour.
Non, au niveau comptable, c'est autre chose.
Au niveau comptable pour Marseille, c'est très important. On va pas dire que pour le PSG, c'est pas important puisqu'ils ont 10 points d'avance. Surtout que là, à Monaco, en plus, ils ont fait l'erreur de faire un match nul au lieu de gagner le match. Mais par contre, pour le PSG, au parc, qui plus est face à Marseille, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de joueurs qui jouent leur premier classico, mais ils se sont rendus compte que là-bas, ce n'était pas du tout évident. Et cette équipe du PSG ne veut pas se faire dominer par qui que ce soit dans ce championnat.
Alors, un truc tout con, mais la preuve que ce ne sera pas forcément un vrai test en rapport avec le match avec le Real Madrid.
Pourquoi?
Parce que Verratti n'est pas là, par exemple. Verratti va le jouer, ce match.
Non, mais Verratti l'aurait joué.
Non, mais Nicolas, tu n'es pas les clés du Paris Saint-Germain qu'au seul Marco Verratti.
Là, c'est un élément essentiel, ce sera un élément important.
Mbappé,
le vrai test, tu le fais avec ton équipe type.
Mbappé n'est pas là.
Ça sert à tout le groupe.
Que Neymar ne soit pas là pour un gros match comme le face au Real, ça peut être très important.
Si Paris bat Marseille demain, tu vas pas te dire est-ce que la situation de Marco Verratti est remise en jeu par rapport à une titularisation?
Je vous pose la question différemment. On s'est posé la question sur la sentinelle, par exemple. Est-ce que tester Verratti sur ce match-là en sentinelle, ça aurait pas été un bon test avant le match contre le Real, par exemple?
Il faut arrêter de faire des tests au mois de février.
Pas des tests, mais t'es obligé. Depuis tout à l'heure, vous me dites, c'est un match.
C'est voir si Thiago Motta retrouve les cannes pour jouer contre Madrid, c'est tout.
Le test, c'est Motta ou Diarra, mais c'est même pas un test. C'est qu'ils doivent enchaîner les matchs pour être prêts face au Real. C'est un des deux. On le sait, c'est clair. C'est ou Motta ou Diarra.
Donc on est d'accord, si c'est un test pour le PSG, ce n'en est pas un pour Marseille.
Non, tu parlais du placement du joueur.
Ouais.
C'est simplement que Mota ou Diarra doit enchaîner les matchs pour se retrouver fin prêt, au niveau du rythme, je parle bien, pour ce match face au Real. Mais c'est pas du tout un test, loin de là. Mota, il a besoin de jouer un maximum de
matchs. Et ça change rien par rapport à Verratti, le fait qu'il soit pas là, dans la perspective du match contre Madrid.
Verratti ne joue pas à Sentinelle.
Ça change rien. J'ai pas compris votre question, monsieur Villas.
Pas grave, moi j'ai compris ma réponse également. J'en ai pas donné. Vous savez qu'hier on avait écouté Valère Germain, que Flo Germain, son homonyme, avait rencontré pour BFM Sport. Vous savez, Valère Germain, il avait expliqué que Neymar parfois pouvait être un petit peu agaçant, qu'il était provocateur, que dans les années 90, il aurait très certainement pris très cher. La question aujourd'hui, la même question a été posée à Dimitri Payet, le joueur de l'Olympique de Marseille, en conférence de presse. Écoutez la réponse de Payet.
On a montré à l'aller que on avait une équipe et je pense que c'est un point aujourd'hui dans lequel on est supérieur au PSG et c'est sur ça qu'on va jouer demain. Honnêtement, je m'attache pas à juger les Parisiens. Je l'ai dit, le seul point où je ne les envie pas, c'est d'être aujourd'hui moi dans le plus grand club français, pardon, mais surtout d'avoir une équipe et on l'a vu récemment que jouer en équipe c'est beaucoup mieux que d'avoir que des individualités.
Ah, tu faisais allusion tout à l'heure, hein, François.
Oui, alors j'en parlais dans les trois points. C'est de la démagogie de circonstance.
C'est-à-dire
que je joue en équipe. Bah alors là, ouais, je pense que c'est un peu de la com. Je pense qu'on le lui a un peu soufflé et il me semble, en tout cas, de ce que je ressens, de ce qui ressort de ces déclarations, que les petits lapsus qu'il fait, il a du mal à articuler, c'est que même lui au fond, en tant que joueur, et il sait qu'en face, c'est une équipe quand même qu'il va affronter, c'est pas une somme d'individualité. Alors, il n'y croit pas trop.
Attends, pour être Payet. Alors, pour être très honnête, la question qu'il lui est posée.
Il se met tous les Marseillais dans la poche en disant, je suis le plus grand club français.
Faut être honnête. La question qu'il lui est posée, c'est d'abord sur Neymar. En fait, si tu veux, le début de la question, c'est la deuxième partie que vous avez vue.
Il répond pas sur Neymar.
Moi, je suis pas, mais si, en fait, lui répond quand on lui pose la question sur Neymar, il dit, moi, je suis pas là pour m'exprimer sur les individualités du Paris Saint-Germain, et après, il déroule. En disant nous on est
oui,
une équipe,
d'accord.
etc. Voilà.
Nous on est une équipe. Ouais. Alors le plus grand club français au palmarès pur, et ça compte, ils ont une Ligue des Champions. Entre une Ligue des Champions et une Coupe de Coupe, tu demandes aux Parisiens, ils vont choisir la Ligue des Champions. Donc ça, c'est objectif. Après, de dire que c'est une somme d'individualité, je pense que Paris a quand même aussi fait la démonstration qu'il savait être une équipe, comme Marseille en a fait la démonstration. Et je pense que les deux, maintenant, sur la scène européenne, Bilbao pour Marseille et Madrid, deux confrontations à corps espagnol pour Paris, c'est une façon de prouver que le football français aura de belles couleurs au début mars, ou pas. Et que si ça se passe mal, eh ben on va revoir la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le Championnat de France.
C'est vrai que
depuis 65 ans.
Cette petite sortie de Dimitri Payet en conf de presse, elle a fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Et le Paris Saint-Germain a récupéré cet extrait de la conf de presse. Ils ont mis un petit maillot, comme ça, aux couleurs de Marseille d'ailleurs, avec une flèche, genre, il se retourne. Alors, c'est une allusion très certainement à ce que Dimitri Payet avait déclaré il y a 6-7 ans. À l'époque, il était à l'AS Saint-Etienne. Le Paris Saint-Germain le courtisait et il avait déclaré, voilà, moi je suis très intéressé par le projet, etc.
Parce que ça aussi, c'est de la bonne guerre.
Ben oui.
Mais c'est de la com. Mais c'est pas un gros mot, Nicolas, de dire que c'est de la com. C'est de bonne guerre. Voilà.
Que les joueurs comme Dimitri Payet, qui, je pense, qui a de l'expérience, disent c'est une somme d'individualité. Une somme d'individualité dans un championnat qui a pratiquement 11 points d'avance, ça n'existe pas. C'est que c'est une équipe avec des individualités qui sont vraiment au-dessus des individualités de l'Olympique de Marseille. Ça, à la rigueur, il pourrait le dire, mais il ne peut pas le dire. C'est ça surtout.
Moi, je joue dans une équipe et en face, c'est une agglomération de bons joueurs. Non, là, c'est de la démagogie. Mais même à Marseille.
On va voir ce qu'en pensent les Marseillais.
Ça les fait bander peut-être, mais ils peuvent dire la attends, question, c'est gentil, mais c'est pas une équipe.
Non, on va prendre la température.
La question, il aura la réponse quand il va être sur le terrain et qu'il va voir si c'est que des individualités ou s'il va tourner à droite à gauche. Parce qu'il y a
un
torticolis
demain. C'est pas les individualités seulement.
Abdo est avec nous. Il est en direct dans l'after. Il a fait le 32-16. Il est avec nous. Salut. Abdo.
Oui, salut les gars.
C'est
Abdo, comme les abdominaux.
Ouais, je sais pas ce que c'est, moi. Je te le dis tout de suite.
Mais comment tu l'écris, Abdo?
Abdo.
Mais c'est quoi? C'est quelle origine, ça?
Ah, c'est un diminutif.
Ah, donc c'est quoi, Abdella?
Abdel Bassat.
Abdel Massacre.
Ah, Bassat. Ah. Massacre. Tu me tues, Ali, là. Ali, t'es un tueur.
Non, je le sais, j'ai rigolé.
Tu vas te faire, Ali, là, t'as pas le droit, là.
Il a raison, Abdo. Là.
Non, mais c'est
Abdel Massacre.
Non, Abdel Massacre.
C'est toi le Massacre, non, que tu connais.
Non, Ali, Abdel Massacre.
Non, Ali, Massacre. Non, ça se dit pas comme ça.
Motorchamps.
Parce que ça se dit pas comme ça. Parce que ça se dit pas comme ça. Dis-le vraiment, comment on le dit.
Abdel Bassat.
Ben voilà. Voilà.
Alors Abdo, est-ce que ce match il est plus important pour Marseille que pour le Paris Saint-Germain, le choc de demain entre le PSG et Marseille?
Alors,
écoutez, moi je pense que ce match-là pour Marseille, c'est un match bonus. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? La troisième place, ils l'auront. Et ils ne seront pas décrochés de Monaco, il n'y a pas de pression. Tu fais un résultat, c'est bonus. Tu perds, c'est prévu. de perdre à Paris avec l'armada qu'ils ont, de gagner, ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné à, au Parc. T'es pas là avec 10 points de retard et en étant sur une bonne dynamique. Il faut croire que Paris va baisser la garde.
Ouais, mais Abdo, la question, c'est pas de savoir qui a la pression, c'est de savoir pour qui c'est important.
C'est important pour Paris de se préparer pour son 8e retour.
Pas pour Marseille.
Sérieusement, on a vu le Real, ils sont impliqués, ça joue sérieux, ça marche. Et eux, alors eux, ils étaient dans une dynamique négative avant le match du PSG, et là ils redressent la barre. Il faut que Paris, ça eux de jouer sérieusement, de pas avoir blessé, de faire de peaufiner leur schéma et de profiter des deux réceptions de Marseille, hein, mais de profiter des deux réceptions de l'équipe de Marseille pour profiter, pour peaufiner, pour progresser ou moi je pense que leur tort c'est la défense. Et ben ça là, c'est là qu'ils devraient face à Payet, Thauvin, Germain, Sanson.
Ouais, Abdo, il a raison. T'as des zones du match demain où tu as des duels vraiment équilibrés.
Bien sûr.
C'est-à-dire Kurzawa face au Thauvin actuel. Avantage Olympique.
Berchiche est blessé.
Donc avantage Olympique de Marseille, par exemple.
Est-ce que disait Payet? Bon, c'est un peu faux. C'est de la com. Paris, individuellement,
collectivement,
c'est beaucoup plus fort. Mais bien sûr. Et ils jouent pas individuellement, Paris.
Mais par contre, Abdo, dis-moi. Oui. Je suis étonné que tu dises que c'est du bonus parce que Marseille, c'est pas la troisième place qu'ils vont chercher là en ce moment.
Tu joues le PSG, ils sont imbattables au Parc.
Non mais c'est pas ça. Non, c'est pas qu'ils sont imbattables, ça c'est sûr, mais ils peuvent accrocher le nul, Marseille.
Abdo, alors imbattable au Parc.
Ce point est important.
Bien sûr.
Tout point pris sur, ben, ça sera très bon même parce qu'on va se rapprocher de Monaco.
Ben c'est ça.
Et le truc, c'est cette distance. Mais tu joues pas.
Mais c'est surtout la deuxième place, Abdo, qui est importante.
Ouais,
c'est pas la troisième.
Tu sais bien que dans le calendrier, c'est le gros match à Marseille, d'accord. Certes, mais Paris c'est au-dessus. Ils ont mis un match au Vélodrome.
Abdo, tu te disais quoi avant le match au Vélodrome? Que Paris était pas au-dessus?
Si.
Ah, et alors le résultat c'est quoi au final? À quelques secondes.
Non mais c'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais il faut être pied sur terre.
Oui, Paris, mais plus fort. Mais
ils ont 11 points.
Avoir les pieds sur terre, c'est une chose. Maintenant, quand tu te prépares pour un match, que tu es dans la phase de forme, la dynamique que connaît l'Olympique de Marseille aujourd'hui, je te garantis que ce match, tu le prépares pour aller faire un résultat au Parc. Un résultat. Et je pense que cette saison, par rapport aux dernières cuvées là du PSG Qatari, Marseille a une vraie possibilité d'aller emmerder Paris Saint-Germain.
Le mot de la fin, Abdo, faut qu'on y aille. Vas-y, Abdo.
Mais pour moi, bien sûr que je souhaite la victoire. Bien sûr, mettre un terme à cette série négative qu'on a à Paris. Bien sûr. Mais il faut quand même. Attends, t'as Neymar, même blessé, même malade. Il fait mal, Neymar. Et Cavani, il planque but sur but. Et je cite pas les autres. Mais il est tueur, hein, cette équipe.
Merci Abdo de nous avoir appelé
Merci Abdo.
Allez, à plus tard.
Bonne soirée, bon match à toi demain Abdo. Salut. Ouais.
En tout cas, tu vois, je trouve que le Neymar de début des 18 est un peu trop soliste à mon goût, même si avec le talent qu'il a et que la coquille but sur but. Et j'avais donné la statistique il y a deux semaines. Cavani, il traverse pas la meilleure période de sa saison.
Non, il est pas bien.
Dans quelques instants, on va évoquer l'autre choc de demain, le derby entre Lyon et l'AS Saint-Etienne. Il y a un record d'affluence qui est annoncé demain au Parc OL.
Il faut qu'on reparte de la notion de derby.
Oui. Non, ça n'aura pas le temps.
Très important.
Et on sera en Espagne avec Fred Hermel, on sera en Angleterre avec Philippe Auclair également. À tout de suite dans l'After.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarabia, avec François Malardo, vous êtes très nombreux à réagir sur le hashtag RMC Live. Ce soir, vous êtes très nombreux à nous appeler également au 32-16. Tiens, un petit sondage a été lancé par Laurent Fala tout à l'heure. On évoquait le cas de Johan Gourcuff. Sondage sur le compte Twitter de l'After. Supporter rennais, Johan Gourcuff doit-il arrêter le foot selon vous? Vous êtes 81% à répondre oui, 19% de non, sur près de 5000 votants. Voilà.
Mais je pense qu'il y a une forme d'empathie et de compassion par rapport à ce résultat, qui est un résultat massif. Hein. Je pense qu'il y a aussi une tristesse par rapport au joueur qu'il a été. Non, c'est pas juste pour faire du Gourcuff bashing.
Non, c'est pas ça.
Il y en a en partie, mais pas seulement, à mon sens.
Il a dit souvent, Johan Gourcuff, c'est que c'est vraiment un amoureux du football. Et là, ça doit être déchirant de ne pas pouvoir.
Ah, mais ça doit être déchirant pour lui de s'arrêter, je pense aussi.
Oui, c'est pour ça que j'en parle.
Ouais.
C'est que quand on le voit qui court sur des œufs, qu'il a peur que même une motte peut lui faire une entorse de la cheville ou du dos ou de ce que quoi que ce soit, que ça fait de la peine. C'est-à-dire qu'on parle même pas de football, on parle d'un joueur, un sportif de haut niveau, qui ne peut pas exprimer sa passion. C'est surtout ça.
Demain, il y a deux chocs, hein, bien entendu, que vous pourrez suivre sur RMC. Il y a donc Paris Saint-Germain face à Olympique de Marseille à partir de 20h sur RMC.
Et puis il y a Derby. Même Bordeaux, ça peut être.
Il y a Bordeaux, c'est vrai également.
Ah, mais ça va être un beau match.
Non, mais je suis persuadé. Et il y a un autre match également, c'est le derby, le match entre Lyon et Saint-Etienne. Autre sondage qui vous est lancé sur le compte Twitter d'RMC Sport. Si vous ne pouvez en regarder qu'un, lequel choc choisissez-vous? Est-ce que c'est le PSG Marseille ou est-ce que c'est le Lyon Saint-Etienne?
Ça dépend. Hein. Du côté du Rhône, 75%
de
Marseille.
Tout le monde attend ce match-là, de toute façon.
Du Rhône, ouais.
Même quand Marseille n'était pas bien, tout le monde attendait.
Et voilà, moi je suis niçois, je te dis c'est PSG Marseille.
Ouais, toi c'est Nice-Bordeaux, toi. Quelques petites informations. Bon, oui. Il y a une information de taille qui est tombée ce soir du côté de l'OL. Il y a un absent de taille également, ouais, puisque c'est Anthony Lopez qui est touché au triceps, qui ne sera pas demain du match face à l'AS Saint-Etienne. Du coup, c'est Gorgelin et Grande qui seront les deux gardiens. Gorgelin, il a 27 ans. C'est la doublure de Lopez. Vous savez combien de matchs de Ligue 1 il a disputé dans sa carrière?
Un match?
Quatre.
Quatre.
Voilà.
Cette saison, un match.
C'est donc lui, ce qui veut rien dire, hein, mais c'est lui qui sera demain dans les buts, du coup, face à l'AS Saint-Etienne. Il y a un seul absent, par contre, du côté de Saint-Etienne, c'est Mbengue. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on se posait un petit peu la question hier de savoir si le derby s'était rééquilibré. Est-ce que vous pensez que ça peut rééquilibrer les choses, le fait que Lopez soit pas là?
Déjà, que Lopez soit pas là? Oui, parce que c'est un gardien qui est très important et qui fait souvent il fait gagner des points à son équipe. Mais par contre, là, c'est la différence équilibrée, c'est surtout Saint-Etienne. C'est qu'il y avait un ou deux joueurs qui ont fait le match aller.
Ouais, et là, il y a eu.
Et en plus, ouais. Jean-Luc Gasset a récupéré tout le monde, il est parti avec 20 joueurs. Un groupe de 20.
Bah, c'est vrai que le mercato a fait du bien, on l'a souvent évoqué, mais l'équipe a beaucoup changé du côté de Saint-Etienne.
Il a été réussi ce mercato.
Et la dynamique n'est pas la même des deux côtés non plus. Alors même s'il y a un élément qui pourra peut-être jouer en faveur des Lyonnais, c'est le public. Demain, il y a un record d'affluence qui est attendu au Parc OL. 57 921 spectateurs attendus. Le précédent record, il datait du match face au Paris Saint-Germain. 57 582 spectateurs avaient assisté à la rencontre. Ça, par contre, ça fait plaisir également. C'est souvent plein.
La Ligue 1, oui. Ouais. Je le dis souvent. C'est pas parce qu'on est un petit club et qu'on a juste 17 000 places qu'on ne doit pas le remplir. En France, on aime énormément le football. Bon, tout le monde dit qu'il n'y a pas une question de culture. Si on aime vraiment le football, ça c'est vrai. Mais il faut encore façonner nos stades. Je sais que ça coûte de l'argent. La pelouse est très importante pour le spectacle. On l'a vu encore à Strasbourg. C'est un beau stade avec beaucoup de spectateurs. C'est une catastrophe encore.
Mais tous les critères sont remplis là à Lyon par rapport au le stade, la pelouse, l'ambiance. Voilà. Donc on est à part si ça dévie un peu pour des questions de sécurité et l'utilisation d'un réseau social en particulier chez un des deux présidents, mais à part ça, je vois pas.
Sachant que l'autre n'est pas inscrit sur le réseau social,
ça, qui permettrait de mettre le feu aux poudres.
C'est ça, François?
Oui, bien sûr.
Moi, je parle de la Ligue 1 en général. Que la pelouse est quelque chose d'important pour le spectacle.
Sur le derby.
Choc à suivre donc demain sur RMC. Fred Hermel est avec nous, les gars. Bonsoir, Fredo.
Hola Chico.
Comment tu vas,
Fredo?
Mais qu'est-ce qu'ils sont fous du derby, Fred?
Fred, il s'est régalé.
Rigole, mais on va regarder.
Je
vais pas pouvoir regarder beaucoup parce que à 20h45, t'as quand même Séville Atlético. C'est quand même autre chose. Hein. Donc,
c'est pas gentil pour les Stéphanois.
Ça peut être pas mal. Séville Atlético.
Mais c'est pas Lille-Lens. Dans pas longtemps, on va avoir Lille-Lens en national.
Non, mais pas de derby. Je pensais que vous parliez du classico de demain.
Par rapport à ce Séville Atlético, pour y avoir été encore mercredi soir, quelle ambiance au
Santiago. À Séville, c'est spécial.
C'est vrai que Fred est 100 fois mieux placé que nous pour nous le dire, mais l'ambiance en Espagne n'est pas toujours... Parce que
c'est
en famille au stade, tu vas en famille. Mais en Andalousie et à Sanchez-Pizjuan, je vous invite tous à aller voir un match au Sanchez-Pizjuan une fois dans votre vie. Plutôt un match un peu caliente, un peu chaud.
Mais parce que déjà, il y a une chanson qui s'appelle l'hymne du centenaire, qui a une quinzaine d'années, qui a été faite par un groupe assez connu, qui s'appelle Arrebato avec son groupe, et il est sublime. C'est vraiment un hymne. C'est l'hymne du centenaire qui est devenu plus important que l'hymne historique de Séville. Alors après, les ambiances, il y a différents types d'ambiances. quand le PSG, quand le Real a marqué le deuxième but puis le troisième but contre le PSG, ça bougeait pas mal à Bernabeu aussi. Hein, faut quoi après.
Mais ça réagit plus que ça n'agit, non?
Ah oui, ça c'est clair. Oui, mais voilà. Le Barça et le Real sont pareils à ce niveau-là. Ce sont des gens qui ont tellement l'habitude de voir des choses extraordinaires qu'il faut vraiment en montrer pour les faire lever de leur siège.
C'est dommage.
Alors Fredo,
c'est comme ça. Après, des mecs qui prennent 5-0 et qui sont contents quand même, ça pousse pas les joueurs non plus. Hein. Mmh. Donc il faut trouver un juste milieu. C'est vrai que les publics de Bernabéu du Camp Nou peuvent être très énervants, mais après ça peut bouger aussi. Après Calderón, j'ai eu peur que la tribune s'écroule. C'était un match de Ligue des Champions contre le Barça, mais c'était un truc de malade, quoi.
C'était l'ancien stade, c'est ça.
L'ancien stade, ouais.
C'est le Vanda Métropolitain.
Oui, ouais, exactement. Ça. Qui commence petit à petit à trouver
une âme.
C'est ça, voilà. Et s'il y a de bons matchs de Ligue Europa, là,
à Copenhague, c'était pas extra, il paraît.
Ah non, c'est fait chier. Non, j'y étais. Hein.
Ah, tiens, t'as pas dû te faire chier par contre devant le match du Barça qui sort à gagner 6-1.
Ah, c'était super.
Face à Girona. Alors, ils ont été menés très très tôt dans le match après 3 minutes de jeu.
Oui, parce que c'est. En fait, Girona a marqué le premier but. Ouais. Et le gros problème, c'est expliqué l'entraîneur de Girona, c'est que Luis Suarez a égalisé au bout de 3 minutes, donc il n'y a pas eu de petite période de doute. Puis quelque part, on a presque le sentiment qu'ils ont marqué trop tôt. Donc, ils ont provoqué la réaction du Barça un peu trop rapidement. Mais c'était un super match. Après, vous savez, ceux qui n'aiment pas le vrai football, ceux qui bien critiquer les gars vont dire si ça il y a pas de compétitivité, mais regardez le jeu qu'a fait Gérone pendant 90 minutes. Bah oui, quand tu joues comme ça, quand tu essaies de jouer au football, bah oui, tu peux t'en prendre 6 quand Messi est là. Messi, il a jamais été aussi fort de sa vie, les amis, hein. Ah.
Il a claqué un doublé. Je crois qu'il a battu le record de passes dé dans l'histoire de la Liga, je crois, c'est ça.
Et c'est ça. Et en plus, il est
passeur.
Ouais, mais tout ça, il s'est amusé. Mais c'était magnifique ce soir.
Il sait tout faire.
Mais simplement parce que quand on voit des matchs fermés qu'on a pu avoir, qu'a pu avoir le Barça à Stamford Bridge contre Chelsea mardi soir, on comprend que ce soir ils avaient envie de jouer au football. Et en face, il y avait l'équipe qui joue au football. C'est un promu, cette équipe de Gérone. Mais franchement, c'était superbe à voir.
C'est pas anodin ce que vient de dire Fred. Hein. Quand Messi, si tu nous dis qu'il est dans la forme de sa vie, à mon sens, ça veut dire que tu as un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot
qui est dans la meilleure
forme
à cet âge-là.
La meilleure forme de sa vie
à cet âge. Dembélé
et dans un
Fred
club. Dembélé à propos.
Ça va être dur, quoi. Ça va être dur cette saison, mais on l'a annoncé. Il a fait une passe décisive quand même au moment où Jérôme commence à baisser. Mais il est hyper nerveux, quoi. Enfin, ça se sent, quoi. C'est quand on voit Coutinho qui a mis un mid super, qui a fait une passe décisive. Coutinho, ça y est, il est déjà dans le bain. Mm-hmm. On sent que Dembélé est encore très jeune, qu'il a pas la bouteille qu'un Coutinho qui a quand même 24 ou 25 ans quand même, et que Dembélé, son prix, son histoire, sa blessure de début de saison continue de lui peser beaucoup. Donc moi, je pense qu'il faut pas juger Dembélé cette saison.
C'est la saison prochaine, je pense.
Ouais, voilà, parce que voilà, quand t'es blessé pendant près de 4 mois, que tu débutes au Barça, et en plus, ce qui va être inquiétant pour lui, c'est que le Barça joue maintenant en 4-4-2 et c'est le système. Et Messi est très bien aussi parce que c'est même pas un 4-4-2, c'est un 4-4-1-1 avec un Messi qui tourne derrière Luis Suarez et qui fait ce qu'il veut entre les lignes. Et donc c'est vrai que ça marche bien comme ça. C'est une équipe très équilibrée que ce Barça, et que Dembélé va devoir il joue à droite, hein, il joue au milieu droit, mais ça va être compliqué pour lui. Mais Fred, voilà, le Barça va l'attendre.
On n'a pas beaucoup de temps, Fredo, faut absolument qu'on parle du Real Madrid qui a gagné 4-0 face à Alavés. Alors il a aligné la BBC Zizou et Benzema a marqué. Alors visiblement il y a eu un geste classe en plus de la part de Cristiano Ronaldo qui a laissé deux. Alors vas-y.
Alors on va commencer. Alors c'est le match en fait où Benzema, c'était parti pour être un calvaire pour Benzema. Au bout de 12 minutes, il y a un très bon contre du Real Madrid. Benzema est au deuxième poteau, il a en gros plus qu'à pousser le ballon. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il glisse. C'est vrai qu'il y avait des problèmes, beaucoup de joueurs ont glissé. Et là, il manque la super occasion. Et là, le public, ça commence à le descendre, etc. Et Benzema, je peux vous dire, il a un sacré mental, hein, parce que là, c'était vraiment le mauvais moment. Et il a continué à essayer de jouer, etc. Et il a fait une passe décisive dans la surface pour Cristiano Ronaldo, une sorte de talonnade, mais qui est une sorte de
on l'a vu sur BFM
de fin de râteau, de râteau, quoi. Et là, Cristiano Ronaldo, qui est très classe, marque le but. Et les gens appellent Cristiano, et Cristiano dit au public, c'est lui le responsable du but, c'est Benzema. Et c'était pas le premier cadeau de la soirée. Juste après le repos, Benzema chippe la balle au milieu de terrain, fait une passe décisive pour Bale. Benzema était à deux places décisives et il jouait très très bien. Et franchement, les gens commençaient à changer un peu d'opinion sur lui, parce qu'il faisait un match magnifique, comme il sait le faire quand il est bien dans sa tête et bien dans son corps, en association avec des plein de 1-2, etc. Et 89e minute, pénalty sur Gareth Bale, Cristiano se jette sur la balle, on dit bah, va tirer, et offre la balle à Benzema. Il avait jamais fait ça. Jamais. Il n'avait jamais laissé un pénalty à personne. En tout cas au Real Madrid. Et là, Benzema le tire, et le public applaudit, etc.
Tu penses qu'il le fait parce qu'on est à Bernabeu, je pense qu'à l'extérieur, il ne le fait pas.
Il le fait pour montrer au public exactement. Que Benzema, c'est un grand joueur et que regardez que Benzema, il avait besoin de marquer. Oui. Et d'ailleurs, ça a eu un effet très positif et c'est révélateur de ce qui se passe dans ce vestiaire. J'ai posé la question à Zidane, on va écouter ce qu'il m'a répondu. Mais pour lui, c'était un geste pas du tout anodin que celui de Cristiano pour Karim Benzema.
Malgré les difficultés qu'on a eues cette année, je pense que c'est un vestiaire qui est top, quoi. Et après, c'est dans ces détails, c'est dans le détail de Cristiano, c'est bien sûr très important, en fait, parce qu'en fait, Karim, il avait juste aussi aujourd'hui besoin, avec le match qu'il a fait, de marquer un petit but. Il a eu des occasions, il l'a pas fait auparavant, il a fait marquer Cristiano deux fois. Et après, il y a ce détail de Cristiano pour Karim.
Tu vois, pardon, alors, hein, vais traduire parce que détail, il fait un hispanisme. Il veut dire détailler. Détail, ça veut dire un beau geste en espagnol. Mmh. Mais il fait un hispanisme, il dit c'est pas un détail, justement, c'est tout sauf un détail. Mais Zizou veut dire, enfin, il se trompe de mot parce que il habite ici depuis longtemps et qu'il il vient juste de parler en espagnol. Détailler, c'est un beau geste.
Mais voilà. pas tant que ça, Frédéric, parce que bon, même si t'as raison de le reprendre par rapport à cet hispanisme, mais c'est un détail qui a beaucoup d'importance parce que cette situation de penalty, on l'a vécu à Paris, mais dans un autre sens. Mmh. Et là où Zidane, il peut absolument pas masquer la vérité ou trafiquer la vérité, c'est que quand il vient dire que le vestiaire se sent bien et qu'il vit bien malgré une saison qui est plus compliquée que les deux précédentes.
C'est visuel.
Là, il peut pas mentir parce que sinon il a 20 mecs. Si il y avait un problème, il y a 20 mecs ou 23 mecs qui peuvent parler à Marca, qui peuvent parler à la presse espagnole pour dire et avec un tel ça se passe pas, et le vestiaire il est pas bon, etc. Là, vous n'avez pas ça. Donc le vestiaire madrilène malgré la décision vit bien. Et ce détail en question, Paris ne l'a pas bien géré, ne l'a pas bien vécu.
Le mot de la fin, Fred, vas-y.
Non, simplement, vous savez que Cristiano Ronaldo, s'il avait pris le penalty, il aurait marqué, et s'il avait marqué, il aurait marqué son troisième but.
Moi, j'ai lu qu'il les avait déjà eus, justement.
Non, mais ça, il les a pas. C'est en première saison, il tire un
ouais, il y a un but qui lui est pas accordé.
Qui lui est accordé par Marca.
Voilà.
Mais qui est pas accordé par l'arbitre et accordé par personne. Donc, voilà. Et comme c'est Marca qui donne le prix du Petiti, c'est un éternel combat, mais à partir le moment où l'arbitre l'a pas accordé, et c'est vrai que c'est Pépé qui marque le but. Il l'a pas atteint. Et okay. Ça aurait été le 50e triplé de sa carrière. Et donc ce soir, Cristiano, t'imagines marquer 300 buts plus 50e triplé. Bah,
il en a 299 buts. Ouais. En 285 matchs de Liga. Il y a qu'un joueur dans l'histoire de Liga qui a atteint les 300 buts, c'est Messi, il l'a fait en 326 matchs. Enfin, les deux, ils sont...
Merci, Fred. Et pour terminer, simplement... ils sont en train de revenir là. Je vais reprendre l'expression qu'a utilisé le journal Sport, le journal catalan. Le lendemain du Real PSG, le PSG a ressuscité un mort. Ben le mort, il est en train de se requinquer, je vous raconte pas.
Merci Fredo, bonne soirée à toi Fredo. Nous reviendrons dans quelques instants avec Philippe Auclair. On va filer en Angleterre. Il y avait une belle affiche aujourd'hui, on aura deux magnifiques demain. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et François Malardo et Ali Benarabia, Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe.
Salut les amis.
Salut Philippe.
Bonsoir.
Salut Philippe.
Oui, ça va. T'es dans le froid sibérien qui est tombé sur Londres et bon, qui va vous tomber dessus également, hein, j'imagine.
Oh non,
ça va. On a été bien gâtés là cette semaine. Hein.
On
en tout cas, avant-hier ou hier,
on attend une température de moins 6 à moins 8 de la neige.
Ah oui, ça pique.
Speaking.
Philippe, qui d'ailleurs est extrêmement choqué par le fait que je t'appelle Ali, Prince Ali.
Non, je suis pas choqué du tout.
Ça t'étonne.
Non, mais simplement, je me suis dit, est-ce que par hasard, l'un des princes héritiers de Jordanie serait avec nous ce soir dans l'after? Tu vois, c'était un moment de naïveté totale de ma part.
Bah, écoute, moi, j'ai reçu des directives de la part de la direction, je m'exécute, hein, tu me connais, voilà.
Pourquoi le prince de Jordanie?
Parce que le prince Ali était candidat à l'élection de la FIFA il y a 3 ans déjà.
Ah oui, voilà.
Non, parce que Jordanie, c'est le roi, Abdella.
Oui, c'est son fils. C'est le prince. Le prince, c'est le roi.
De parler au roi.
Et c'était le retour du prince également.
C'est le fils du roi, pardon.
Cet après-midi en première ligue, Liverpool West Ham. Le grand retour de Patrice Evra en première ligue, Philippe.
Oui, bah écoute, ça a été un peu compliqué.
Bah, il est impliqué sur le premier but de Chan. Bon, il est au marquage d'un corner, c'est difficile, quoi.
Oui, bon, oui. Et puis, de toute façon, c'était pas nécessairement une bonne idée de lui donner Chan. Et en plus, là, ce but, moi, c'est celui qui me donne un petit peu des... J'ai quelques petits problèmes parce que j'ai regardé, enfin, je l'ai regardé, re-regardé. J'ai quand même la très nette impression que Adrian, le gardien de West Ham, est complètement bloqué par James Milner.
Ah oui.
Alors, je sais
oui.
que les arbitres laissent passer ce genre de choses. Mais moi, j'ai un petit problème avec ça parce que le goal ne peut absolument rien faire là-dessus.
C'est vrai, il y a une obstruction.
Il y a une obstruction, mais bon. Cela dit, on va pas. Patrice Evra, tu sais, c'était une note un petit peu en bas de page.
Ouais.
Dans la mesure en plus où il jouait pas à un poste où il était hyper exposé, puisqu'en fait, moi, ils avaient choisi d'avoir également Aaron Cresswell sur ce côté. C'est-à-dire que c'était quand même très très costaud à gauche a priori. Et ce qu'on a surtout vu, c'est qu'on d'abord on a vu un match qui était franchement épatant. Au niveau de l'animation et des deux côtés, parce que West Ham a été loin d'être ridicule.
Arnautovic est dans une forme.
Ah mais en ce moment c'est mais il est le joueur que tu as toujours espéré qu'il serait.
Ouais, c'est vrai.
Et visiblement il se sent bien dans sa peau. Là en plus il y a Manuel Lanzini qui revient, qui est un super joueur et avec lequel il s'entend très bien, donc ça laisse présager de jolies choses pour West Ham. Et puis surtout on a vu un Liverpool virevoltant qui moi m'impressionne de plus en plus. Je sais pas ce qu'il en est pour vous les gars de semaine en semaine. Alors c'est vrai qu'il concède parfois quelques occasions, c'est possible, mais alors devant ça va toujours à 10 000 à l'heure. James Milner, j'ai l'impression qu'il a 3 ou 4 ans de moins. Il s'est retrouvé Chan était bien dans un de ses bons jours. Van Dijk apporte de la solidité. Karius, dont on sait qu'il a des petits problèmes encore, c'est pas un gardien parfait, mais bon, il paraît en confiance. Et puis bon, hommage au grand Mo Salah une fois de plus qui marque
les
un
trois
but.
Marqués, hein, Salah, Firmino et
bah, comme, j'allais dire presque comme d'habitude, mais c'est une bonne habitude. Mais celui de Mo Salah est particulièrement, je pense qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent marquer celui-là.
On se sent l'habitude de le faire d'au
oui,
but.
Ouais, mais
je crois
il
que c'est
a
l'un des
un tel
joueurs,
calme
d'au but en première ligue.
Alors tu sais qu'il en est quand même, Ali, 23 buts en 27 matchs de championnat, mm-hmm. alors qu'il n'est pas avant-centre.
Non, exactement.
Alors qu'il a tiré un pénalty depuis le début de la mm-hmm. saison. C'est des stats de dingue. Et les stats, en l'occurrence, signifient quelque chose, en ce sens que tu as un joueur qui est... D'ailleurs, je pense qu'on a, vous l'avez sans doute vu et passé sur nos antennes. Cette interview qu'il a donnée à SFR Sport. On sent un joueur qui est complètement...
Il est épanoui.
Épanoui, ouais. Bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien avec son entraîneur, bien avec ses coéquipiers.
Bah, et qui a un sacré mental aussi, parce que c'est ce qu'il dit dans l'interview. Oui. Il avait eu un premier passage en PL à Chelsea, ça s'était mal passé. Et en
c'était
partant,
même traumatisant, je dirais.
Il s'était gardé dans un coin de la tête, je reviendrai et j'y arriverai.
Non,
quoi.
Mais surtout avec ce qu'il a fait, faut regarder du début, et c'est bien l'interview, c'est parce que avec ce qu'il a vécu et d'où il est parti, c'est normal qu'il est blindé. Quoi qu'il arrive, il sait qu'il ira jusqu'au bout de ce qu'il a décidé.
Mais par rapport à la remarque de Philippe, moi, le voyant avec la Roma, je l'attendais pas à ce niveau de lucidité, de sang-froid, presque, j'allais même te dire, de technique avec le ballon, quoi. C'est un joueur qui savait qu'il avait une pointe de vitesse extraordinaire, une des plus belles en Europe.
Mais même physiquement, il est impressionnant.
Physiquement, il s'est mis au diapason de la première ligue. Mais techniquement, moi, c'est là où je suis le plus surpris, comme quoi il en avait gardé.
Alors, mais il est bluffant.
Il est bluffant, exactement.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il était très bon techniquement. La différence, c'est qu'il y avait beaucoup de déchets.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il était capable de se créer, et on l'a vu quand même à Liverpool, Philippe, 4-5 occasions, 5-6, il a marqué 2. Là, la différence, c'est que.
Alors, Philippe.
La moindre occasion, ça fait but.
Avec cette victoire, Liverpool est deuxième. Alors, en attendant, avec un point d'avance sur United, qui est demain affrontera Chelsea. Alors, ce sera demain à 15h à suivre sur SFR Sport également cette affiche. Alors, il y a beaucoup de choses à dire autour de ce match. Ce sera le duel une nouvelle fois entre Mourinho et Conte. Et alors, surtout, alors, moi, dans la presse anglaise, on ne parle que de ça. Bah, c'est le cas Paul Pogba. On en est où, alors?
Oui. Bah, écoute, où on en est, on aura la réponse une heure précisément avant le coup d'envoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de façons le choix du côté de José Mourinho, dans la mesure où il y a la blessure de Ander Herrera, qui apparemment était due à de mauvaises informations venant du corps médical, pas trop sûr. Le fait que Mourinho a fait beaucoup de compliments à Pogba sur la discipline qu'il avait montrée à Séville, où il avait, mine de rien, été l'un des meilleurs joueurs de Manchester United en seconde période.
Comme s'il avait besoin de ça.
Eh ben oui.
Malheureusement.
Il a besoin, parce que si tu veux, il y a quand même un... Il y a eu ce problème, en effet, quand il est revenu de sa blessure et de sa suspension. C'est vrai qu'il était pas bon. Il n'était pas bon et il y avait besoin de faire quelque chose. Mais là, bon, on est tombé dans une espèce de psychodrame, de mélodrame invraisemblable. Tu ne sais plus qui penser parce que t'as Mino Raiola qui, pendant ce temps-là, vous pouvez vous imaginer qu'il ne fait rien pour éteindre l'incendie. Mais au contraire, c'est plutôt qu'est-ce que je peux en retirer. Donc, a priori, à mon avis, demain, tu vas voir. C'est le cadre idéal pour voir Paul Pogba faire un match, enfin, un match référence et qui cloue le bec à tout le monde face à un adversaire. Alors, qui maintenant? Parce que on parle, bien évidemment, on parle plus du titre, mais la course au top 4, les gars, c'est que c'est compliqué. Liverpool est passé devant avec 57 points, donc devant Manchester United. Si Chelsea venait à l'emporter demain, Chelsea se retrouverait à égalité de points avec United également. Et Tottenham Hotspur, qui joue contre une équipe de Crystal Palace, où il y a tellement de blessés, alors ça c'est assez unique, non seulement tu peux faire un 11 des blessés, mais tu peux même avoir un banc des remplaçants des blessés à Crystal Palace. C'est absolument hallucinant. Et je parle de titulaire, hein, bien évidemment. Mm-hmm. Donc, tu peux imaginer Tottenham faisant le job demain à 13h, coup d'envoi à Selhurst Park.
5-6-0, quoi.
Oui, enfin, sauf que c'est Roy Hodgson, donc, qui va organiser son équipe de telle façon qu'eux. Et bon, et à Selhurst Park, tu sais jamais. Parce que tu sais jamais. Mais là, il leur manque 12 joueurs, je crois, ou 13 joueurs au total.
Il y a une équipe. Alors, nous, on a préparé même un 11 pour demain, des joueurs de Palace qui sont blessés. C'est quand même hallucinant ce que disait Philippe.
Mais c'est exactement ça. Incroyable. Et c'est effrayant. Et tu peux imaginer donc Tottenham prenant les 3 points également. Ça veut dire que Manchester United, tout d'un coup, ça devient un petit peu compliqué, même pour le top 4.
Alors, autre...
Donc il y a un énorme enjeu pour ce match.
Un petit mot, Philippe, très rapido sur la finale de la League Cup qui a lieu demain également, ouais, entre Man City et Arsenal.
Et également un match très important pour les... Alors, c'est vraiment le malheureux vaincu, parce que pour Arsenal, c'est une occasion de faire de cette saison 2017-2018 qui est quand même tristounette. Plus que tristounette.
Ils sont dans un no man's land. La saison, elle est finie quasiment.
Il y a encore la Ligue Europa, mais si tu trouves le moyen, tu t'es qualifié, mais tu te fais battre à la maison par Östersunds. Bon, j'adore Östersunds et Graham Potter. C'est une histoire géniale et tout ce qu'on voudra, mais quand même, ça l'affiche mal. En championnat, bon, t'es largué et largué depuis longtemps. Donc, il reste la Ligue Cup que bon, tu n'as jamais gagné, Arsène Wenger. Alors, si tu la gagnes, c'est pas mal. Ça peut-être. Et par contre. Si jamais tu la perds, c'est catastrophique. Et pour Guardiola, après s'être fait sortir de la Cup par Wigan, si jamais tu perdais la League Cup face à Arsenal, là, ça commencerait, les gens commenceraient à se poser des questions, se demanderaient, mais attends, est-ce qu'il se passe pas quelque chose un peu bizarre dans cette équipe de Manchester City? Si tu me demandes mes prédictions, je suis pas Manu Petit, mais je pense pas nécessairement qu'Arsenal vivra un jour de gloire ce dimanche. Hein, ça risque d'être compliqué. Ramsey de retour, Özil est apparemment rétabli. Aubameyang peut jouer, Mkhitaryan n'est pas éligible, hélas. Mais du côté de Manchester City, la bonne ou très mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde est frais et dispo, sauf Mendy, bien évidemment, qui ne reviendra qu'au mois d'avril ou au mois de mai. Donc oui, gros match en effet, qui va déterminer sans doute quelle couleur tu donneras à la saison d'Arsenal. Et puis également peut-être à celle de Manchester City, si les choses se passaient mal, sait-on jamais. Les 9 dernières visites d'Arsenal à Wembley, c'était 9 victoires. Donc c'est un stade qui leur réussit. Ils ont battu Manchester City là-bas l'année dernière, ils ont battu Chelsea. Bon, va savoir. Mais grosse journée.
En tout cas, Philippe, je m'aperçois avec un peu d'ironie que lorsque on est correspondant en Angleterre, qu'on connaît le championnat anglais par cœur, on peut justement faire l'impasse sur l'Europa League. Pour rappeler qu'Arsenal va jouer contre le Milan AC, c'est une des belles affiches de l'Europa League. Ouais. Alors que quand on est en France, l'Europa League...
Bon, c'est un peu moins le cas quand même ces derniers temps, faut être honnête. Les clubs français la jouent maintenant, faut pas.
Oui, c'est juste incroyable de dire qu'on la joue.
Alors qu'on l'a jamais gagné.
Deux, trois,
c'est juste incroyable de dire que
Manchester United l'a gagné l'année dernière et Liverpool était en finale l'année d'avant, donc et Chelsea l'a gagné en 2013, donc et Fulham était en finale en 2010, donc c'est pas une compétition qui est prise. Ben, je me tais.
Voilà, merci Philippe.
Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon dimanche.
Bien sûr que c'est. Oui, mais il y a un chrono. Moi, je suis pas le maître du temps. Merci beaucoup Philippe. Excellent week-end à toi. Bisous Philippe. Et puis vous le savez, les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, c'est sur RMC. Demain, intégral Pyeongchang dès 6h du matin sur RMC avec la Dream Team RMC Sport, Marine Zéro, Sandrine Bailly, Nathalie Péchala, Sébastien Amier. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang, c'est jusqu'à lundi sur RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018 et de l'équipe de France Olympique. Et lundi, RMC sera à Grenoble pour recevoir les médaillé des Jeux Retour de Pyeongchang de 19h40.
Attends,
lundi, ça se termine. RMC sera à Grenoble pour recevoir les médaillés
des Jeux. Demain, c'est retour. Clôture demain.
Oui.
Et il rentre lundi en France.
Voilà, et de 19h40 à 21h, bah, il y aura tous les médaillés justement. Sachez que demain, il y a les GG du sport, comme tous les samedis et dimanches matin à partir de 10h. Et il y sera Prince Ali.
C'est Jeux Olympiques, ils sont
à Pyeongchang, en Corée du Sud.
Ils battent le record.
Avec le débat PGOM, est-il toujours le plus gros événement du sport français? Merci, bisous, à demain!
Salut!
RMC, le super football show, l'After Foot.